Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu, là on a exploré beaucoup de ce que c'est le consentement, dans quel cadre, comment on peut commencer à mieux le respecter. Tu as parlé tout à l'heure des bris et on a parlé un peu des biais. J'aimerais bien qu'on zoome un peu sur ça, parce que naturellement, c'est pas facile de dire non alors que c'est un vrai non. Il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire et je pense que les gens qui nous écoutent ont eu potentiellement, je l'espère pas trop en tout cas, mais malheureusement des mauvaises expériences où ils ont subi des interactions qu'ils ne voulaient pas subir parce que j'arrive pas à dire non. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un... Je sais qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent de dire un vrai non alors que c'est un non. Peut-être on peut zoomer un peu sur cette partie pour éviter ces comportements dans notre marketing, notre prospection, nos entreprises.
Oui, alors des biais, il y en a
beaucoup.
Beaucoup, et en fait, dans l'absolu, ça dépend de chaque individu. Enfin, il y a des choses qui reviennent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des biais, quoi. Le premier biais qui me vient là, c'est le biais de notre éducation qui fait qu'on a été éduqué à l'école, voilà, à obéir, à dire oui, à faire un bisou sur la joue d'une personne qu'on n'a pas envie. Il y a un biais d'éducation, il y a un biais de politesse aussi, de pas oser dire non parce qu'on a appris que c'était pas poli. De refuser de boire ce qu'on nous propose de boire ou de refuser un contact physique parfois ou voilà.
Ouais.
Il y a des biais de pouvoir, ça il y en a plein, des biais d'autorité, donc par exemple les personnes qui se retrouvent dans une posture d'autorité par le fait qu'elles soient professeurs ou docteurs.
Coach, c'est notre cas. Coach. Je sais que, enfin, nous, on fait grave attention à ça dans le programme, justement pour ça, quoi.
Ouais. Complètement, accompagnant, accompagnante. Voilà, on a, même si on ne le souhaite pas, il y a une posture de crédibilité, d'autorité, et qui fait que ça peut être plus difficile de nous dire non.
Ouais.
Ou un biais d'aura aussi, quelqu'un qu'on admire, qui a du charisme. On va penser que cette personne est plus est potentiellement plus à même de savoir ce qui est ajusté, ou
ouais,
un biais de désir, de relation. Par exemple, quand je suis amoureuse, quand j'ai un méga crush et que cette personne me propose, par exemple, qu'on regarde Star Wars. Moi, j'aime pas trop Star Wars.
D'ailleurs, pause. Il faudra qu'on règle ce sujet.
Oui, oui, non. Je vais apprendre à aimer Star Wars.
On peut reprendre. Donc, tu n'aimes pas Star Wars, quelqu'un que tu aimes.
Enfin, je dis Star Wars, mais disons un film de science-fiction avec beaucoup de robots et de métal, tu vois. Peut-être je vais me forcer à regarder ça pour lui plaire. Et je vais vraiment passer un mauvais moment.
C'est douloureux, Star Wars, je comprends.
Donc, il y a un biais de vouloir plaire. Parfois, il y a aussi un biais de juste la flemme. Ça, je l'ai eu une fois en atelier, un atelier consentement, on m'a dit la flemme de dire non. Bah, comme si c'était plus éprouvant, plus fatigant de dire non que de dire oui. Il y a pas envie de sentir du malaise. Ça peut être envie que ce soit confortable pour l'autre.
Ouais.
Voilà, il y en a
des tas. Il y en a énormément.
Et j'ai oublié de parler, mais quand même, c'est très important. Il y a plein de biais de domination aussi. Par exemple, les personnes qui ont été éduquées femmes ont moins appris à s'affirmer, à poser leurs limites, etc. Donc, il y a des biais aussi à ce niveau-là. Voilà, sur toutes les discriminations, il peut y avoir aussi des biais assez forts, et les biais se cumulent. Voilà. Après, du coup, ça peut rendre un peu flippé. Mais pour moi, une bonne pratique, ça va être de mettre en lumière les biais, en discuter avec les personnes. Et plus on a des postures comme ça de pouvoir, plus par contre ça demande de vigilance, parce que plus on a une responsabilité vis-à-vis de ces biais-là. Donc pour moi, le mieux, c'est la communication, et être clair, et ralentir aussi, c'est une bonne pratique, aller lentement. Ça permet aux personnes de vraiment conscientiser davantage leur consentement, et aussi avoir conscience que la majorité des gens n'ont pas conscience de ces biais.
D'où l'importance de
communiquer. Ouais, d'où l'importance de communiquer. Et d'ailleurs, alors, je sais plus, j'ai un pote qui utilise ce terme que je lui ai repris, mais je crois que c'est... Enfin, voilà, il y a plusieurs personnes qui les utilisent. C'est des notions que j'aime bien. Mais les notions d'endoconsentement et d'exoconsentement.
Okay.
Donc, la notion d'endoconsentement, c'est ma capacité à poser mes limites, à exprimer un consentement libre, éclairé, de manière, disons, alignée, quoi.
Mes compétences à moi, quoi.
Voilà, avec mes limites à moi. L'exoconsentement, c'est la capacité à aider les autres à consentir de manière éclairée et libre. Et ça passe par tout ce dont on a parlé tout à l'heure, poser les questions, laisser de l'espace, préciser que c'est totalement OK un non, etc. Et du coup, un autre aspect pour moi, c'est mettre en lumière les biais qui sont en cours. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a toujours des biais en jeu. Il y a toujours des biais en jeu. On peut pas
on peut pas les supprimer.
On peut pas y échapper. On a été éduqué d'une certaine manière. On est dans une certaine situation dans la société, etc. On se positionne forcément avec des biais. On a des biais de cohérence. On a Rien que notre neurologie, elle est pleine de biais.
Ouais.
Du coup, pour moi, c'est pas arrêter de faire des propositions, arrêter. Voilà, c'est juste avoir conscience, conscientiser le mieux qu'on peut, le plus possible, et communiquer.
Ouais. Et je pense que c'est là où j'aime bien cette séparation des notions de ma capacité à donner mon consentement de manière la plus éclairée possible. Enfin, ce que tu disais sur endoconsentement. Et du coup, si on revient dans le monde business, c'est en gros là où je suis un consommateur, entre guillemets, ou là où j'interagis avec des gens qui me font des propositions, c'est ma compétence à rester aligné.
Ouais.
Et là où je pense qu'il y a un grand et beau travail à réaliser, notamment dans la prospection, mais dans toutes nos interactions, c'est comment je crée un cadre, une structure, une manière de proposer, d'accompagner la réflexion de mes potentiels clients pour les aider à... Et c'est, du coup, cette notion de exo-consentement. Et ça, je pense que du coup, il y a plein de choses fascinantes à faire qui créent plus de sécurité pour l'autre. Mais à mon sens, ça fait que aussi, à chaque fois qu'on a des propositions qui atterrissent et où on démarre une relation, elle est beaucoup plus qualitative et les résultats sont meilleurs aussi. Parce que je pense que quand le cadre est bien fait, comme tu disais tout à l'heure, si c'est un vrai oui quand on s'engage ensemble plutôt qu'un j'y vais un peu à reculons, bah, on fera du meilleur travail, on adorerait mettre des meilleurs résultats, on va plus s'amuser sur le chemin, ça va donner des meilleures choses pour le futur, etc. Et on retombe sur le fait que c'est au service de tout le monde, quoi, de trouver ça.
Ouais. Oui, et je pense que, en fait, le taf, finalement, d'une commerciale, enfin, de la prospection qui prend en compte le consentement, c'est d'aider l'autre à prendre sa décision.
Ouais.
Ça va pas être de convaincre, mais vraiment d'aider l'autre à prendre sa décision. Et ça veut pas dire que on n'a pas à valoriser ce qu'on a à proposer. Si on sait que ce qu'on a à proposer, ça a de la valeur, si on pense que ça peut contribuer à l'autre, bah, il s'agit de lui donner l'information aussi. C'est une partie qui n'est pas à négliger pour autant que de savoir apprendre à présenter ce qu'on a à offrir.
Effectivement, c'est bien que tu le mentionnes, parce que je pense que le risque de... Enfin, il y a une manière dont on pourrait entendre notre conversation, c'est « Ah, faut pas trop que je me mette en avant parce que ça risque d'influencer l'autre dans sa décision. » C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Clairement, je pense que les deux sont importants. C'est comment je fais pour valoriser la réalité de ce que je peux apporter. Et là, je pense que nous sommes toutes et tous très biaisés à minimiser ça, parce que, pareil, on est éduqués à pas trop parler de nous, pas trop se montrer, pas trop se jeter des fleurs et patati et rester bien dans le coin. Donc, il y a comment je valorise, mais en valorisant de mieux en mieux, comment je fais pour prendre soin que l'autre prenne une décision vraiment alignée, et qu'un non aligné, c'est une bonne nouvelle, un oui aligné, c'est une bonne nouvelle, et on veut tout autant que la personne ne dise pas oui alors que c'est non, ou on veut pas non plus qu'elle dise non alors qu'en réalité ce serait oui. Et ça, c'est une autre forme intéressante, je trouve.
Oui, et vraiment, soyons magnifiques et merveilleux et montrons notre best-of.